questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous allons évoquer un sujet qui est d'actualité depuis des années et qui est même redevenu central avec la crise sanitaire. Il s'agit des déserts médicaux, une problématique rurale mais qui est aussi urbaine. On a tendance à l'oublier. L'Agence régionale de santé va d'ailleurs confirmer ce triste constat dans son prochain zonage de la région qui sortira à la fin du mois de mars. Cette thématique, nous en parlons aujourd'hui avec Denise Lauprêtre, présidente de France Alzheimer en Seine-Saint-Denis. Bonjour Denise.
Bonjour.
Alors ça peut paraître évident, mais déjà pour commencer, c'est quoi un désert médical ?
Un désert médical, c'est un endroit où pour trouver un médecin, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de médecins par habitant que partout ailleurs. Et quand je dis médecin, ça veut dire aussi tout ce qui est paramédical, spécialité, c'est tout l'ensemble. L'Île-de-France bat un record de désert médical et malheureusement, la Seine-Saint-Denis est encore en plus dans le record.
Vous évoquez la Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état de la situation sur place ?
La Seine-Saint-Denis, c'est à la fois des grandes cités dont tout le monde connaît et c'est aussi des zones pavillonnaires. On a les deux en Seine-Saint-Denis. Le problème, c'est que vous êtes, par exemple, un couple de 80 ans. Monsieur est malade d'Alzheimer. Madame habite en haut d'une tour et des fois, il y a des problèmes d'ascenseur, il y a tout ça. Et puis, en plus, le médecin est parti en retraite. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à retrouver un médecin ni pour soigner monsieur qui est malade d'Alzheimer, ni pour soigner madame qui n'est pas malade d'Alzheimer. Ils ont 80 ans. Les solutions qu'on va leur proposer, c'est peut-être de la téléconsultation. On parle de deux mondes, là. On est dans un truc qui devient complètement hallucinant, quoi. La situation, c'est que la CPAM peut vous rechercher un médecin si vous n'en trouvez pas. Mais elle peut vous garantir deux noms de médecins, mais elle ne vous garantit pas qu'ils aillent à domicile, par exemple, pour ce qui est des généralistes. Il faut déjà qu'ils aient trouvé tout ce circuit-là, c'est-à-dire d'appeler la CPAM et autres. Donc, en tant qu'association France Alzheimer, nous, on a des appels de famille. Je ne sais plus comment faire, je n'ai plus de médecin. Donc, c'était nous qui les appellent, hein. Donc c'est ça qui est un peu curieux. Donc, nous, on les réaiguille ou bien vers les DAC ou bien vers la CPAM. Mais le fait est que les gens sont dans cette situation-là. Ce qui aggrave dans le cas de nos malades d'Alzheimer, c'est que vous savez, la maladie est malheureusement pas accompagnée déjà par un protocole d'une façon générale. On est un peu dans un désert. On a certains droits qui ne s'expriment que si le médecin a complété des dossiers. Or, comme il n'y a pas de médecin, il n'y a pas non plus le dossier complété qui va permettre de faire jouer l'APA, la carte mobilité inclusion. Vous voyez l'ensemble des dossiers, donc en fait les gens n'ont pas les mêmes droits. Hein. Ils ont apparemment les mêmes droits, mais ils peuvent pas les faire agir. Quoi. C'est ça qui nous pose le plus de problèmes, puisque du coup les gens n'ont plus aucune aide du tout. Quoi.
Quels sont les échos que vous avez des autres départements d'Île-de-France ?
Je ne vais pas parler des autres, parce que je pense qu'ils sont aussi dans cette situation, sachant que le pire est en Seine-Saint-Denis, parce qu'on cumule toutes les précarités, tous les chômages, toutes les difficultés sanitaires, toutes les difficultés de logement. Ce que je sais aussi, c'est que en ce qui nous concerne, ça avait commencé bien avant sur les autres professions qui étaient la paramédicale. Les médecins, quand il y en avait, prescrivaient par exemple de l'orthophonie ou du kiné, et il n'y en avait pas. Donc en fait, la prescription, elle était bien écrite, mais les aidants passaient des jours à essayer de trouver un orthophoniste ou un kiné. De ce point de vue-là, je pense qu'on est un petit peu plus pire que les autres départements de l'Île-de-France. Je ne me prononcerai pas sur la Seine-et-Marne qui, elle, en plus, cumule la surface, hein, puisque là, on est dans du rural. Mais je pense qu'on est, vraiment le département le plus en difficulté.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a ces déserts médicaux en Île-de-France et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis ?
Encore une fois, pour parler de la Seine-Saint-Denis, on cumule toutes les difficultés. Donc, c'est aussi les difficultés pour un médecin de s'installer en Seine-Saint-Denis parce que ça a pas bonne presse, hein, faut le dire. Quelque chose qui est curieux parce que la plupart des gens qui travaillent en Île-de-France viennent de ces départements-là. Hein. Donc, on leur confie nos malades, on leur confie nos enfants, mais ça fait pas bien d'aller habiter vers chez eux. Donc, c'est un peu curieux. Le problème, il y a eu du numerus clausus général en France, du nombre de médecins. qui, n'importe comment, n'a pas été renouvelé à temps. Donc, il y a énormément de départs en retraite. Je crois qu'en 10 ans, le 93 a perdu 300 médecins. C'est assez énorme. Le 93 a en plus des difficultés, on va dire, à des endroits de sécurité. Les médecins ont un peu peur de s'installer. Ce qui est fait dans les villes, c'est d'installer de plus en plus de maisons médicales, pour que les médecins soient plusieurs au même endroit, se sentent plus en sécurité, que ça soit mieux organisé. Mais encore une fois, pour nos vieux qui sont à 80 ans dans les étages, ça va pas encore être la bonne solution, quoi.
Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, hein, de ces patients Alzheimer. Quelles sont les conséquences pour eux de ne plus avoir accès aux médecins? Et quand je dis médecins, c'est les généralistes, les orthophonistes, les neurologues.
Alors, les conséquences, c'est que les malades ne sont pas reconnus en tant que malades. Donc, ne vont pas bénéficier de l'aide médicale dont on sait que n'importe comment elle sera limitée parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas grand-chose pour soigner la maladie. La maladie, elle se soutient par des aides à domicile. Et les aides à domicile, ça peut être sous le biais infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie. Mais c'est aussi les aides à domicile pour le ménage, pour aider à la sortie. Pour tout ça, il faut des dossiers. Et pour des dossiers, c'est des ordonnances ou c'est compléter des dossiers. Ils sont pas remplis. Donc, les personnes, elles ont pas leurs droits. Et en plus, les aidants, eux, qui voudraient bien faire, hein, parce qu'ils veulent absolument soigner leurs proches, vont avoir tendance à, du coup, aller, par exemple, vers Paris pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Donc là, ils vont avoir un rendez-vous qui va peut-être être dans 3 mois ou dans 4 mois. Le problème, c'est que ce spécialiste ne se rend pas compte de la situation dans le 93, donc ça va peut-être leur prescrire justement de l'orthophonie, du kiné. Donc les gens vont partir rassurés en se disant, bah tiens, il m'a écouté, il m'a compris, sauf qu'à l'arrivée, ils trouveront pas d'orthophonie ni de kiné. Ils ont voulu bien faire, ils ont voulu aider leurs proches, mais en général, ils n'y arrivent pas, quoi.
Et sur la maladie, ça a donc des conséquences directes?
Les conséquences sont directes, parce que bon, le malade d'Alzheimer, il est malade d'Alzheimer, mais si par exemple, il a une infection urinaire ou autre, pour que les dents identifie que c'est une infection urinaire, il voit bien que son proche ne va pas bien, le proche n'est pas capable d'exprimer ce qu'il a, et on ne peut pas faire appel à un médecin. Donc on est dans une situation de boucle, où on va peut-être faire appel aux pompiers, on va peut-être emmener le malade aux urgences, et là on va re-rentrer dans une autre boucle, où le malade d'Alzheimer arrivé aux urgences, c'est pas le meilleur endroit, quoi. Parce que ça se passe pas très bien, parce qu'il y a plein de soucis, et donc souvent on va le ramener à la maison. Donc, il va pas se passer grand chose, en fait, pour le soigner et l'aider à vivre sa maladie et aider son aidant à apporter son appui au mieux, quoi. L'aidant, il est complètement, il se sent impuissant, hein. C'est ça qui est méchant, quoi. Alors qu'il a des droits, il a pas le droit de les exprimer, quoi.
Et puis, il y a aussi l'aidant qui est tout seul face à cela.
Alors déjà, c'est notre slogan quand on dit un malade, c'est toute une famille qui est touchée. Mais en plus, l'aidant, il est très isolé dans cette maladie parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, les autres se désintéressent un peu parce qu'ils se sentent impuissants. Donc l'aidant, il est tout seul. Et en plus, là où il devrait être aidé, puisqu'il s'agit d'une maladie, c'est là qu'on oublie toujours, hein. On croit toujours à un vieillissement déréglé. C'est pas un vieillissement déréglé, il y a des vieux qui ne sont pas malades d'Alzheimer. Il s'agit d'une maladie et elle n'est pas accompagnée. Et dans le nombre de malades autres qu'Alzheimer dans la Seine-Saint-Denis, nos malades d'Alzheimer, ils sont comme tous les autres malades, mais avec ce plus qu'eux-mêmes ne pouvant pas intervenir sur leur maladie, leur proche est très impliqué, mais leur proche peut être malade aussi. Donc, il nous arrive de répondre à des familles qui n'ont plus de médecin pour personne, hein, ni le mari, ni la femme, et des fois, ils ont un enfant handicapé. Donc, ils n'ont plus de médecin. Vous voyez, c'est à ce point-là, quoi. C'est assez triste, quoi.
Dans quelle mesure il y a des moyens mis en place pour pallier ce problème?
Alors, je sais que des communes essayent, hein, des communes, la région, essayent de financer l'installation des plus jeunes dans des maisons médicales. Donc, font appel à des architectes, font appel à vraiment essayer d'étudier une structure qui permette d'accueillir toutes les professions dans les meilleures conditions possibles. Mais vous vous doutez bien, quand je parle d'une maison médicale, ça veut dire que cette maison médicale, elle va être à un endroit, donc elle s'est encore éloignée des gens, puisque toutes les spécialités vont se retrouver regroupées. Mais forcément, les gens vont en être éloignés. Je sais qu'il se passe des choses, mais il faut aussi trouver les médecins Et du fait du numerus clausus, là, il n'y en a pas assez. Donc, quoi qu'il arrive, c'est très difficile. Je sais que, bien sûr, il y a des efforts, mais à mon avis, ils ont été pris un peu tard, parce que ça fait longtemps que ça se dit, quoi, qu'il va y avoir départ en retraite et que les départs en retraite ne seront pas remplacés. Ça fait longtemps qu'on le sait.
Est-ce que le développement de la métropole du Grand Paris va aider, finalement, à trouver des solutions ?
Côté Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup de travaux. Alors ça, là, on peut la faire, parce que c'est des embouteillages, c'est des rues barrées, c'est des travaux très, très compliqués qui ne facilitent pas la circulation de la population. Après, les choses, il faut peut-être qu'elles se fassent, mais enfin, je vous dis, ça en rajoute à la difficulté pour aller rejoindre les structures qui sont peut-être mises en place. Moi, ce que je vois, c'est les appels des personnes, très concrets. Hein. Ils nous appellent. Je n'ai plus de médecin, je ne trouve pas l'orthophoniste. On a même, nous, délégué des bénévoles qui font tous les ans l'appel de tous les orthophonistes de la Seine-Saint-Denis pour déjà déterminer si cet orthophoniste reçoit va au domicile ou en cabinet, s'il reçoit des malades d'Alzheimer ou il ne fait, par exemple, que les enfants ou les traumatismes. Et on fait déjà ce premier travail pour que les personnes qui nous appellent, on leur donne déjà des noms d'orthophonistes qui nous ont déjà dit qu'ils recevaient des malades d'Alzheimer et autant on a déjà fait le travail, vous voyez, parce que sinon ça peut prendre énormément de temps pour les familles d'appeler tous ces orthophonistes. Moi je connais des gens qui ont passé des journées entières à appeler, quoi. Donc nous on a déjà préparé le travail, si je puis dire, mais voilà, ça demande ce travail là et ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on fait ça, hein. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'il y a un problème au niveau de la Seine-Saint-Denis.
Dernière question, Denise, même si vous n'avez pas de boule de cristal, l'avenir, vous le voyez comment ?
J'aime pas être pessimiste, parce que je veux qu'on soit quand même dans l'action et que nous, on est là aussi pour amener un peu mieux. Ce qui ne me rassure pas, c'est la façon dont on parle de la maladie d'Alzheimer. On oublie de dire que c'est une maladie, hein, donc on nous en parle d'une façon un peu légère, en disant qu'avec des colocations, des choses comme ça, on va résoudre le problème. Ça m'inquiète. Parce que du coup, on ne prendra pas la mesure qu'il faudrait mettre en place des structures beaucoup plus costauds pour accueillir ces milliers de malades, quoi. Ça, c'est sûr que de ce point de vue-là, je ne suis pas complètement optimiste. Je trouve que la maladie, elle est mal calibrée, très mal calibrée, quand on en parle partout, y compris des fois avec des médecins. Je trouve que ce n'est pas assez visé comme une maladie, avec la perte d'autonomie qui va avec, et que du coup, comme il y a perte d'autonomie, il devrait y avoir renforcement de l'aide. Et c'est l'inverse, quoi. C'est en ce sens que je suis pas complètement optimiste, parce que je trouve qu'on n'en parle pas bien. On en parle évidemment au moment de scandales qui sont dénoncés, comme il y a eu dernièrement dans les EHPAD, mais encore une fois, il manque une dimension. C'est quand même les malades en perte d'autonomie et leurs proches qui sont sur le front pendant de nombreuses années, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Denise, de nous avoir répondu.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Continuez de nous écouter et de nous écrire. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.francealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.